moi, s'il vous plaît, le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, puisque vous, j'insiste, c'est vraiment pas un peu fort là quand même, non ? Ça va ? Si, c'est un peu fort quand même, on me dit, ouais, c'est un peu fort. Si on peut baisser un peu, merci. Comme vous le savez, notre thématique générale, les dimanches, les mardis, c'est une église selon le cœur de Dieu. Et puis, là, les mardis, nous accentuons depuis deux mardis, nous étudions les lettres. J'ai à cœur de voir avec vous les lettres aux sept églises que Jean a écrites sur l'île de Patmos dans l'Apocalypse. On a vu ensemble, juste pour rappel, que ces sept églises sont des types d'églises qui ont toujours existé à la surface de la terre. Elles ont réellement existé à l'époque où Jean écrit à la fin du 1er siècle. Ces églises qui sont des églises qui se situent en Asie mineure, c'est-à-dire dans la Turquie actuelle, ces églises ont existé, elles existent encore dans ce qu'elles sont, bien sûr, même si géographiquement il n'y a plus d'église sur place, il n'y a plus rien, mais dans ce qu'elles sont, les types d'églises ont existé au cours de l'histoire, et puis existeront encore de plus en plus, parce qu'on s'aperçoit que leur message, le message que Jésus délivre à ces églises, a toujours été d'actualité et est toujours d'actualité. Il le sera de plus en plus en avançant vers la fin des temps. On voit que le Seigneur se présente à chaque église, il se présente d'une façon différente en fonction d'un besoin spécifique de l'église. Parce que l'église doit mettre, le Seigneur met en évidence des points qui sont bons, il fait des bons bilans et il sait dire ce qui va, mais il y a un ou deux points, il y a des choses qui sont vraiment sérieuses que le Seigneur met en évidence, qui sont suivies d'un appel solennel à la repentance pour dire qu'il y a vraiment des choses extrêmement sérieuses. Et si vous avez fait attention, sur les sept églises, cinq entendent de la part de Jésus un appel solennel à se repentir, à réformer ses voies, à changer, à faire demi-tour sur des points spécifiques qui peuvent réellement les mettre en danger. Et ça peut concerner n'importe quelle église à n'importe quel moment de son histoire. Et puis nous avons vu que ces lettres, les points que le Seigneur souligne en réalité, correspondent à sept grandes batailles, les batailles de la vie chrétienne, sept enjeux qui sont des enjeux majeurs de la vie chrétienne que nous allons devoir remporter au fur et à mesure des courants qui vont venir dans ce monde, dans la nuit des temps, des enjeux majeurs que nous allons devoir remporter, autant sur le plan individuel que collectif. Le Seigneur s'adresse certes à des communautés, mais il dit bien que chacun écoute, que chacun, ça me concerne moi le premier autant que toi, que chacun écoute ce que l'Esprit dit aux églises, et il termine les lettres en disant « à celui qui vaincra, je donnerai », et il y a une promesse qui est assortie parce qu'il y a une responsabilité individuelle. Et quand je considère ces lettres et que je considère l'évolution de l'histoire des églises dans cette fin des temps que nous avons bien sûr commencé, c'est sûr qu'on a déjà mis le pied dans la fin des temps, mais on s'aperçoit en réalité, bien aimé, que les grandes batailles pour les chrétiens et pour les églises, parce que l'église ne peut pas être autre chose que ce que nous sommes, mais que les grandes batailles pour les églises ne sont pas à l'extérieur. Les grandes batailles sont à l'intérieur. Très souvent, elles sont dans les cœurs. Et c'est là que se trouvent les véritables combats, les véritables enjeux, les véritables victoires, les vraies batailles, même si on sait qu'il y a des choses à l'échelle mondiale qui arrivent et qui sont d'une certaine façon terribles, mais pas tant que ça, puisque c'est sous le contrôle souverain de Dieu. Les grandes batailles de l'histoire, ce ne sera pas Armageddon qui précède le retour de Jésus. Armageddon, c'est rien, c'est deux coups de cuillère à peau. La grande bataille, ce ne sera pas Gog et Magog qui auront lieu quand Satan sera relâché de sa prison à l'issue du millénium, juste avant le jugement dernier, le grand trône blanc, que les cieux et la terre soient roulés, qu'il y ait un nouveau ciel, des nouvelles terres et une nouvelle Jérusalem. Mais tout ça, le Seigneur le décrit comme ça, c'est que le Seigneur nous dit, mais voilà, ça, voilà comment ça va se passer, voilà comment ça va se finir, point à la ligne. Ça, c'est comme si c'était fait, c'est réglé. Par contre, pour de ce qui est des églises, des batailles, des enjeux de la vie chrétienne, des batailles pour les églises dans la fin des temps, le Seigneur ne peut pas dire « voilà comment ça va se finir ». Mais non, parce que ça dépend de moi, ça dépend de toi. Et chacun devra apporter sa propre réponse et chacun devra veiller dans les temps qui vont s'assombrir. Évidemment, on le sait, tout est écrit, on l'a déjà considéré plusieurs fois. On a déjà considéré Éphèse, on a considéré Pergame. On va regarder l'église de Thyatire maintenant. Donc, vous êtes au chapitre 2, on va prendre au verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent, de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je rendrai à chacun selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autre fardeau. Ce que vous avez, retenez-le seulement jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les conduira avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Une lettre qui, certainement ici, comme celle de Pergame, est déjà un petit peu plus compliquée que celle d'Éphèse, Smyrne ou Philadelphie. Ici, on a des choses un peu plus compliquées, mais qu'on va facilement éclaircir avec un peu d'exégèse. On s'aperçoit que l'église de Thyatire était une église qui, visiblement, possédait des qualités, et des qualités sérieuses, des qualités certaines. Il est question de son amour. Il est question de foi, il est question d'un fidèle service, il est question d'œuvre, il est question de constance, de régularité. Mais toutes ces choses-là sont sérieusement menacées parce qu'il y a un mal qui est cerné par celui dont les yeux sont comme une flamme de feu, parce que le Seigneur sonde, il sait, il lit au fond des cœurs, il sait tout, il voit tout, même ce que parfois on essaye de cacher, celui dont les yeux sont comme une flamme de feu, ce que j'ai contre toi, et il y a un appel à la repentance. L'Église ici, à une tolérance coupable envers cette femme, Jézabel. Tu laisses cette femme Jézabel, il y a une tolérance coupable, tu laisses cette femme Jézabel. Tout le monde n'a pas suivi son enseignement pernicieux et sa voie de débauche, mais il y a une tolérance coupable, tu laisses cette femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner, séduire, et puis conduire aussi à l'immoralité. Quand vous avez dans vos Bibles, selon vos traductions, le mot débauche ou impudicité, versets 20 à 21, débauche ou impudicité, en grec, la racine, c'est pornos, porneia, qui a donné notre mot actuel pornographie, qui concerne tous les comportements sexuels déviants, illicites, qui sont sérieusement réprouvés par le Seigneur dans sa parole, déjà depuis l'Ancien Testament et jusqu'à la fin des temps. Porneia a donné pornographie. Jézabel, est-ce que c'est vraiment le nom de cette femme? Est-ce que c'est un surnom qu'on lui donne? Est-ce que... on ne sait pas. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la Jézabel de l'Ancien Testament qui est ressuscitée, hein, c'est pas ça du tout. De la même façon qu'à Pergame, il y avait un Balaam. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, c'est l'état d'esprit. C'est l'entité spirituelle maléfique qui est derrière cette femme. C'est la voix VOIX, la voix, l'enseignement pernicieux, et la voie VOIE, le chemin, la conduite, le comportement dans l'impudicité. C'est cet état d'esprit de Jézabel qui est présent et qui fait beaucoup de dégâts. Il y a derrière cette femme, dans l'église de Thyatire, il y a une entité spirituelle démoniaque particulière, avec un enseignement erroné, pernicieux, qui infiltre, il y a un esprit de séduction, il y a beaucoup d'immoralité. On ne parle pas de chute. Là, on parle pas de chute isolée quand il nous arrive de chuter le long du chemin. Non, non. Là, on parle d'immoralité qui est installée et qui est devenue monnaie courante. Et tout cela, c'est Jésus réagit et parce que en réalité, c'est un affront. C'est un mépris de sa sainteté. C'est un affront à sa sainteté. Et on voit que enseignement erroné, enseignement pernicieux, infiltration, séduction, immoralité, ce sont toujours les mêmes armes de l'ennemi qui reviennent d'une façon ou d'une autre. Je vous ai dit, ce n'est pas la Jézabel de l'Ancien Testament qui est ressuscitée. Mais ici, il faut comprendre l'histoire de Jézabel dans l'Ancien Testament pour comprendre ce qui se passe et comprendre l'état d'esprit et le danger réel qu'il y a derrière. Jézabel, on le sait, vous lisez son histoire dans le premier et deuxième livre des rois. Jézabel, c'était la femme d'Akab, du roi Akab. Akab, c'était déjà un roi tordu. Déjà, pour épouser Jézabel, il ne fallait déjà pas être tout net. Il fallait être profondément tordu. Et Jézabel, c'est la fille de Et-Baal. Et-Baal, c'est une fausse divinité, c'est une abomination. Et-Baal signifie « avec Baal », uni au dieu Baal. Et-Baal, c'était le roi des Sidoniens, mais rien que la signification de son nom en dit long. Et unie avec Baal. Et Jézabel, c'est la fille de Et-Baal. Jézabel, ça signifie Baal est mon époux. Baal est impudique. Et ici, en réalité, c'est vraiment le faux dieu, la divinité démoniaque qui est derrière Baal, dont il est question et qui anime cet état d'esprit de Jézabel. Jézabel, c'était une femme extrêmement puissante. Elle avait à son service, en permanence, 450 faux prophètes de Baal et 400 faux prophètes d'Astarté, qui était une autre divinité démoniaque, ce qui fait 450 et 400, les fameux 850 faux prophètes que Élie a affrontés, qu'il a confondus et qu'il a fait exécuter au Mont Carmel, un roi, chapitre 19, vous relirez. Mais cette femme, je ne sais pas si vous vous imaginez, elle avait 850 faux prophètes qui mangeaient chaque jour à sa table. Nous, on est une centaine là-haut au culte le dimanche matin. Vous imaginez 8 fois ce qu'on est, 850 faux prophètes, 850 personnes qui ont une influence maléfique, qui mangent chaque jour à la table de cette femme. Elle a réellement une puissance spirituelle incontestable. Dieu seul est tout puissant. Amen. Elle n'est pas toute puissante. Le diable n'est pas tout puissant. L'enfer n'est pas tout puissant. Les démons ne sont pas tout puissants. Dieu est tout puissant parce qu'il est créateur. Mais il y a dans les sphères célestes des divinités, des autorités, des principautés, dans les sphères sataniques qui effectivement ont certains degrés de puissance. Et là, on sent qu'il y a quelque chose derrière cette femme, parce que lorsque les 850 faux prophètes sont exécutés par Élie, et que le peuple commence à revenir en confessant qu'effectivement c'est Dieu qui est le seul vrai Dieu, et qu'elle fait dire à Élie que mes dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si je ne fais à ta vie ce que tu as fait à mes prophètes, ce n'est pas une simple femme qui est en train de parler. Parce que Élie, pour avoir peur comme il a eu peur, il y a vraiment quelque chose de particulier derrière. Ce n'était pas une simple femme, il y avait vraiment une puissance spirituelle. Cette femme, pardonnez-moi de le dire ainsi, elle est vomie par l'enfer. Il y a le souffle de l'enfer qui c'est comme un retour de manivelle spirituelle sur Élie à ce moment-là. Il prend peur parce qu'il se prend vraiment le retour de manivelle spirituelle. Il va au désert, il fuit pour sauver sa vie. Et il dit, Seigneur, même, finalement, ce serait même mieux que tu me reprennes parce que là, les caractéristiques, c'est ça qu'il faut comprendre dans ce texte, les caractéristiques de l'esprit de Jézabel, avec des armes qui sont toujours les mêmes, de l'infiltration sournoise, insidieuse, le serpent, avec un enseignement pernicieux, de la séduction, de l'imitation, de l'apparence, un jeu d'influence, cultiver la peur, la dépendance, amener de l'impureté, tout ça motivé par l'orgueil, tout ça au mépris de la patience de Dieu, parce que rendez-vous compte, cette femme, je le dis, qui est une abomination, vomie, il n'y a pas d'autre mot, vomie par l'enfer. Même à elle, le Seigneur dit, je lui ai laissé du temps pour se repentir. Mais elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Et on voit que le Seigneur, dans l'Ancien Testament, après la mort d'Akab, a aussi encore laissé du temps. Elle survit, je crois, 10 ou 12 ans, je crois que c'est 12 ans, une douzaine d'années. Après la mort d'Akab, Jézabel survit une douzaine d'années, Akab a mal fini. Elle survit une douzaine d'années à Akab. Et le jour de sa mort, alors qu'elle sait que le roi Jéhu vient pour en découdre, pour en régler avec elle, parce qu'il y avait l'histoire avec Naboth, et que le roi Jéhu va être le bras armé de Dieu pour la juger, pour le jugement de Dieu va s'abattre sur elle. Elle voit Jéhu arriver, elle sait pourquoi il est là. Et bien le dernier jour, le jour de sa mort, elle voit le roi Jéhu arriver, elle prend encore le temps de se farder. Et puis elle va encore essayer, elle va encore tenter de séduire, et elle se présente à la fenêtre. Et le roi Jéhu intervient et dit, est-ce qu'il y en a qui sont pour moi ici, en haut des murailles? Il y a deux, trois eunuques qui disent, oui, moi, il dit, prenez-la, jetez-la par la fenêtre. Et ils prennent Jézabel, ils la jettent par la fenêtre, et elle meurt, et son sang explose de partout. Le temps que Jéhu rentre, se restaure, il dit, ah, c'était quand même une fille de roi. On va peut-être l'enterrer quand même. Allez enterrer Jézabel. Au moment où ils sortent, il ne restait plus que les pieds, les paumes des mains, le crâne. Elle avait été dévorée par les chiens. Vous relirez tout ça selon ce que Élie avait prophétisé, selon ce que Dieu avait annoncé sur la fin de cette femme. Dieu est infiniment patient, au-delà de tout ce que je peux penser. Mais un jour, ça suffit. Un jour, Dieu met des stops. Dieu est patient. Mais un jour, Dieu met des stops. Il intervient. Un jour, Dieu fait le tri entre le bon grain et l'ivraie, parce que le bon grain et l'ivraie se mélangent. Et Dieu fait le tri. Il est infiniment patient. Mais un jour, il intervient parce que sa patience ne peut pas aller à l'encontre de sa sainteté. Dieu est saint, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est miséricordieux. Il y a tous les attributs de Dieu, mais aucun attribut de Dieu ne peut entraver un autre. C'est dans un équilibre parfait. Et la patience, l'amour, la miséricorde, la grâce de Dieu ne peut pas prendre le pas sur sa sainteté. Dieu reste un Dieu extrêmement saint qui peut manifester énormément de bonté, de miséricorde, de grâce et de patience à cause du sacrifice de Jésus à la croix, parce que Jésus a parfaitement assouvi la colère de Dieu, parfaitement assouvi la loi de Dieu, parfaitement assouvi la justice et la sainteté de Dieu, ce qui permet à Dieu d'être infiniment patient et, comme on le dit souvent, qu'il y ait une porte de grâce qui soit ouverte et ouverte extrêmement longtemps. Seulement, il y a un moment, la porte de la grâce, et on sait qu'un jour, mais ça on ne sait pas quand, ce sera dans la fin des temps, on sait qu'à un moment, la porte de la grâce se refermera. Et quand Dieu interviendra, à ce moment-là, ceux qui ne se sont pas repentis, ils ne rencontreront plus Jésus comme agneau immolé, ils ne le rencontreront plus comme sauveur, mais ils le rencontreront comme juge. Ils le rencontreront comme roi des rois, comme seigneur des seigneurs, comme juge. Et là, le Seigneur intervient parce qu'il y a une situation dans cette église. Je sais que c'est gros ce que je suis en train de dire, mais vous savez, des églises de Thyatire, avec un mélange vraiment malsain, il y en a. Et du mélange malsain qui vient frapper à la porte des églises, des gens qui arrivent avec un masque tout gentil comme ça, puis qui vont commencer à semer des choses pernicieuses au fur et à mesure, à tisser des liens avec les autres, etc. Tel un serpent. Il y en a, bien aimé. Et puis ça arrive et ça arrivera encore. C'est écrit. Parce que croyez-moi, le diable, lui, il a peur vraiment, il a peur de rien. Alors le Seigneur va intervenir, il va dire, je vais la jeter sur un lit. Je vais envoyer une grande tribulation à ceux qui se corrompent avec elle. Qu'est-ce que c'est exactement? Je ne vais pas me lancer dans des conjectures. C'est simplement certainement ici une métaphore. Dieu est en train de dire, s'il n'y a pas repentance, je vais être obligé d'intervenir. Et là, vous n'allez pas me rencontrer comme sauveur, là, vous allez me rencontrer comme juge. Et le Seigneur va être obligé d'intervenir. Alors oui, merci Seigneur, il est plein d'amour, plein de grâce, lent à la colère, bon, miséricordieux, patient, infiniment patient. Mais Dieu est un Dieu saint. Et nous ne devons jamais oublier que la sainteté de Dieu, la sainteté pour son peuple, vous serez saints parce que je suis saint. La sainteté de Dieu, c'est une grâce qu'il nous fait, c'est un privilège. Et Dieu, parce que c'est un privilège d'être en bonne santé, la sainteté, la bonne santé spirituelle, c'est quoi la sainteté? La santé spirituelle et morale de Dieu. La sainteté, je suis en bonne sainteté, en santé spirituelle et morale. Cette santé spirituelle et morale, cette perfection de Dieu, c'est une grâce qu'il nous fait. Quand Dieu nous dit dans le livre du Lévitique, et comme l'apôtre Pierre le reprend, et dans tant d'autres textes qui nous parlent de la sainteté de Dieu et notre besoin de grandir dans sa sainteté, quand le Seigneur dit « vous serez saints parce que je suis saint », le Seigneur n'a pas une baguette sur son peuple pour dire « vous serez saints parce que je suis saint ». Non, le Seigneur il me dit « tu seras saint parce que je suis saint, parce que c'est un privilège, parce que c'est une grâce ». Parce que vous comprenez très bien dans vos corps que lorsqu'il y a un virus qui affecte votre corps, c'est tout votre corps qui est à la ramasse. Et j'aime que mon corps soit en santé, qu'il soit en force. J'aime que mon corps soit en bonne santé. On n'est pas heureux dans la maladie. On n'est pas heureux quand on a un virus, quand vous avez le moindre truc qui vous cloue, qui vous met par terre, vous êtes au lit. La santé, c'est une grâce, c'est un privilège. La santé spirituelle et morale de Dieu en nous, la bonne sainteté, la bonne santé spirituelle en nous, mais c'est une grâce. La sainteté de Dieu, elle ne me fait pas peur, parce que je suis revêtu de la justice de Christ. La sainteté de Dieu, elle m'attire. Je dis, Seigneur, je voudrais tellement être comme toi, parce que la sainteté, c'est une force dans la vie du chrétien. Et malheureusement, cette église de Thyatire, elle est en train de perdre un des combats majeurs de la vie chrétienne, c'est de garder sa pureté. Et ça, elle est en train de le perdre. Et c'est extrêmement sérieux. On ne peut pas oublier que la sainteté, c'est aussi, au même titre que l'amour, un attribut fondamental du Dieu trinitaire, Père, Fils, Esprit. Si le feu évoque l'amour, si le feu évoque la passion, le feu évoque aussi la purification, le besoin de purification. Celui qui a les yeux, c'est pour ça que je vous ai dit à chaque fois, Jésus se présente d'une façon différente aux églises en fonction de leurs besoins profonds. Et là, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, les yeux parce que rien ne lui échappe, parce qu'on ne peut pas le tromper, parce que son regard sonde, il voit ce qui est caché, comme une flamme de feu, parce qu'il est parfaitement pur. Et parce qu'il veut de la pureté, parce qu'il veut amener de la sainteté. La sainteté est un merveilleux privilège, la sainteté est une grâce, la sainteté est une force dans la marche du chrétien, dans la marche de l'Église. Autant le péché est source de faiblesse, de vulnérabilité, mais la sainteté est une force. Vous savez, bien aimé, un chrétien, un disciple, un pasteur, qui vous voulez, un disciple n'est jamais fort par lui-même. Il est fort de sa vie de piété avec son Seigneur. Il est fort de sa consécration. Il est fort de la confiance, du degré de foi qu'il a placé en son Seigneur. Et il est fort de sa sainteté. Il a aussi les pieds semblables à de l'airain ardent, parce que c'est ce qui fait que ça... Le Seigneur, lui, ne s'effondre jamais. C'est ce qui fait qu'un disciple, quand il marche dans la sainteté, il ne s'effondre pas. Les pieds désignent la marche, la façon de vivre, vous le savez, dans la droiture, dans l'intégrité, dans la sainteté. Jésus pouvait dire, le péché n'a rien en moi. C'est pour ça que la mort n'a pas pu le retenir. Parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et comme Jésus était sans péché, c'est pour ça qu'il est ressuscité. C'est pour ça que la mort n'a pas pu le retenir. C'est pour ça qu'il est sorti triomphant. Le péché n'a rien en moi, le péché. C'est pour ça que le diable a cherché tant de fois à le corrompre. Parce que le péché aurait amené de la faiblesse, une emprise, des droits sur lui, une vulnérabilité. Mais la sainteté de Jésus, sainteté qu'il veut me donner, me communiquer par ma relation avec sa parole et le Saint-Esprit, mais ça c'est ma force. Et ce sera de plus en plus une nécessité pour les temps qui viennent que l'Église considère attentivement chacun pour sa part la réalité, la question de la sainteté de Dieu dont nous avons réellement, frères et sœurs, désespérément besoin. Et ça va aller, le gouffre va aller en se, l'écart va aller en se creusant, le gouffre va aller de plus en plus. La Bible le dit, que celui qui se souille encore. Mais que celui qui se sanctifie, c'est-à-dire celui qui avance toujours de plus en plus dans la sainteté à l'image de son maître, que celui qui se sanctifie encore. Et plus on va avancer dans l'histoire des églises vers la fin des temps, plus la différence va être considérable. Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Au-delà des apparences, le Seigneur dit, tu peux rien me cacher. Tu peux rien me cacher. Je te sonde les reins, parce que Paul dit, mettez à vos reins la ceinture de la vérité. Parce que Dieu nous sonde les reins. Pourquoi les reins? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Parce que c'est là qu'on était saints. C-E-I-N-S, du verbe se cindre de la vérité. Au-delà des apparences, Dieu sait si on se tient de la vérité, dans la vérité. Les cœurs, parce que c'est là le siège de ma volonté, les dispositions de mon cœur. Parce que c'est là qu'a commencé le péché. Le péché, avant d'être un acte dans la pratique, le péché, il commence toujours là-dedans. Jésus dit, c'est du cœur de l'homme, que viennent les mauvaises pensées, l'impudicité, les meurtres, les adultères, etc. C'est du cœur de l'homme. Ils sont les reins et les cœurs. Et ici, cette église, malheureusement, elle est en train de perdre un des combats fondamentaux de la vie chrétienne. Il y a un enjeu majeur sur lequel elle est en défaite, en tout cas une très grande partie de l'Église. Dieu est offensé maintenant dans sa sainteté parce que bon nombre de ses membres sont malheureusement ont cédé à des enseignements pernicieux et à de l'immoralité. Je ne parle pas, là vous avez bien compris, hein. Je ne parle pas de ces moments dans notre marche avec le Seigneur où malheureusement nous avons chuté d'une façon ou d'une autre. Dans ces cas-là, l'apôtre Jean est clair, il dit, si nous avons péché, si quelqu'un a péché, pas vit dans le péché, pas vit dans une situation de péché, si quelqu'un a chuté, on parle d'un élément ponctuel, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste, nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Là, on parle de situation de péché, qui était connu, qui était entretenu, qui était dissimulé. D'où celui qui vient avec les yeux qui sont comme une flamme de feu pour révéler des situations. J'insiste, hein, bien-aimé, il ne faut pas que vous repartiez en ayant peur, en disant « on ne sait plus si on est perdu ou sauvé ». Non, ça va. Hein. On parle de situations de péché qui sont cachées, qui sont dissimulées et qui affectent la raison d'être, la force et la santé de l'Église. Le problème de Thyatire, c'est qu'elle tolérait des situations de péché en son sein. Une partie de l'Église vivait dans des situations de péché. C'est pour ça que le Seigneur dit, non pas à ceux qui sont tombés, il dit à ceux qui commettent adultère avec elle, je vais être obligé de, vous avez compris, intervenir, peu importe comment le Seigneur fera. Et s'il dit, et c'était ça, c'était grave dans l'Église de Thyatire, et s'il dit à tous les autres de Thyatire, c'est parce qu'il y avait une marge dans l'Église, on ne sait pas combien, mais il y avait des bien-aimés dans l'Église de Thyatire qui n'avaient, s'il y en avait une partie qui avait sombré, une autre partie malheureusement n'avait pas sombré, n'avait pas capitulé dans des comportements immoraux, ça avait dû aller très loin, puisqu'il est question, ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Faut le dire ça quand même. Donc c'est que ça avait été quand même, vous comprenez l'idée, l'image là, d'accord hein, ça avait été réellement loin. Mais de toute façon, il y avait vraiment deux vitesses dans l'Église. L'Église était en sérieux danger. Combien ont succombé, le texte ne le dit pas. Quelle proportion dans l'Église, on ne savait pas. Mais suffisamment pour que Dieu soit profondément offensé et qu'il dise qu'il intervienne très rapidement et très prochainement. Heureusement, merci Seigneur, il y avait encore des gens intègres. À tous les autres de Thyatire, ceux qui ne reçoivent pas cette doctrine, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, retenez ce que vous avez, c'est-à-dire que c'est à vous de tenir ferme face à cette pression d'immoralité, d'impudicité, d'enseignement pernicieux. Parce que ce déferlement, et c'est ce dont on doit être conscient, bien-aimé, pas avoir peur. Je peux tout par celui qui me fortifie. Il nous l'a fait sortir, Jean-Philippe. Il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Si on reste avec le Seigneur, on est gardé, on est protégé. Merci Seigneur, il faut tenir. Mais bien des textes nous montrent au sujet de la fin des temps, autant sur la question de la persécution que sur les pressions doctrinales, que sur les pressions d'immoralité. Ce déferlement fera que ce sera, pour les chrétiens de la fin des temps, ce sera réellement un combat de rester pur, de ne pas céder à la pression, de se tenir, de se maintenir dans la sainteté. C'est pour ça que le Seigneur dit, je termine avec ça, c'est pour ça que le Seigneur dit, à celui qui vaincra, parce qu'il y a une bataille à remporter, autant individuellement que collectivement, je donnerai autorité sur les nations, il les conduira avec une verge de fer. Jésus, alors que lui va exercer lui-même cette autorité, parce que psaume 2, Apocalypse 19, Jésus va conduire, paître les nations avec une verge de fer, c'est-à-dire qu'il va imposer son règne. Ça, c'est le millénium. Le Seigneur, quand il revient, délivre Israël des armées de l'Antichrist et il va imposer son règne. Il va obliger les hommes à goûter à son règne de paix, d'amour, de justice, de paix, etc., de joie. Il va les obliger pendant ce millénium à goûter. Il les conduira, c'est un règne imposé. Jésus vient avec un sceptre de fer. Mais le texte est clair, cette autorité, il la partagera avec ceux qui auront été vainqueurs avec lui, puisqu'ils régneront avec lui. Ce ne sera plus le temps de la grâce, ce ne sera plus le temps de l'appel à la repentance, mais ce sera non plus le temps du salut, mais le fer de la domination, un règne imposé où tout genou fléchira devant Jésus, de gré ou de force, mais tout le monde fléchira devant Jésus. Et à ce moment-là, même certainement, plus personne ne pourra fléchir de son plein gré. Les hommes fléchiront de force. Merci Seigneur, comme dit un chant que parfois nous chantons, je ne sais pas si vous le chantez ici, le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui, parce que nous fléchissons nos genoux devant lui, mais nous l'avons fait de tout notre cœur, nous l'avons fait de plein gré, et nous l'avons reconnu et accepté tout de suite. Et là, Jésus ne reviendra pas comme agneau immolé. Il reviendra comme roi, couronné, pour imposer son règne. Il ne viendra plus comme sauveur, il viendra comme juge. Et puis, à celui qui vaincra, je donnerai autorité. Il régnera avec moi, il conduira aussi les nations avec une verge de fer. Il participera à mon règne dans ce millénium et pour l'éternité. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Merci Seigneur, dans la nuit des temps, dans la nuit qui s'accélère, il y a cette étoile du matin, l'étoile brillante du matin, Apocalypse 22 et d'autres textes. C'est Jésus l'étoile du matin. Amen. C'est lui l'étoile du matin. L'étoile du matin, à quoi ça sert une étoile ? L'étoile, ça sert quand on est dans la nuit. Donc implicitement, c'est clair, le Seigneur est en train de dire à tellement de ses enfants, vous êtes dans une nuit qui est en train de s'épaissir de plus en plus. Mais l'étoile du matin, elle vous donne le cap, elle vous dirige. L'étoile du matin, c'est votre repère. L'étoile du matin, Jésus lui-même, va vous permettre de garder le cap, de ne pas vous égarer, de ne pas vous perdre dans la nuit. Et bien aimé, si, peu importe les temps à venir, ma vie, ta vie, notre Église, peu importe ce qui arrivera demain, peu importe les tentations, peu importe les épreuves, peu importe les séductions, peu importe les pressions, si l'Église garde les yeux fixés sur l'étoile du matin, elle est sûre d'arriver à bon port. Amen. L'étoile du matin, c'est la garantie d'être dirigé dans la nuit de ce monde et d'en sortir. Et puis, c'est aussi la promesse, enfin. C'est la promesse, c'est l'assurance même d'un jour nouveau. Parce que l'étoile du matin est annonciatrice d'un avenir glorieux. Elle est annonciatrice d'un jour nouveau, d'un jour, d'un avenir radieux. Cette étoile, c'est l'assurance d'un jour nouveau. Nos cœurs vivent déjà en espérance, ont déjà même cette assurance dans le cœur, les yeux fixés sur l'étoile du matin, qu'il y aura un avenir meilleur avec le règne de Jésus dans le millénium et pour l'éternité. Amen. Cette étoile, elle s'est déjà levée dans nos cœurs par la foi. Il y a sa présence en nous. Alléluia. Mais un jour, nous le savons, comme je l'ai entendu dans une prière tout à l'heure, un jour, nous savons que nous le verrons face à face et que nous vivrons dans sa plénitude pour l'éternité. Que son nom soit béni. L'un des enjeux majeurs de n'importe quelle église, plus les temps vont avancer, sera de résister à ce fleuve d'immoralité, d'immondices que le diable essaiera de déverser de façon pernicieuse dans les cœurs, dans les vies, dans les églises, pour les affaiblir, et que l'église devra garder sa pureté, sa sainteté. Ce sera véritablement un combat, parce que ce sera sa force dans la fin des temps. À celui qui vaincra, je donnerai l'étoile du matin. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.